Aujourd'hui, Dès son écrit lance un petit appel à témoignages sur des livres que vous aimez ou une histoire que vous avez à nous raconter autour d'un livre et de votre rencontre avec celui-ci. Votre rapport à un texte ou un livre que vous détestez et que vous comprenez pas pourquoi les autres ils aiment. Ou nous lire un extrait d'un livre que vous appréciez. Enfin bref, tout ce qui concerne le rapport à l'écrit, vous pouvez nous l'envoyer sur radio.sansnous@cenea-pdll.org. Et puis, on a deux enquêtes particulières. Je souhaiterais collecter un grand nombre de témoignages sur un souvenir lié à Harry Potter et un autre témoignage sur vos trois livres préférés. Vous avez le droit de les séparer en catégories, BD, romans, etc., SF. Voilà. On va écouter un extrait d'un texte de Dorothy Allison qui s'appelle Contexte et qui est extrait du recueil de nouvelles Poe qui est paru d'abord aux États-Unis dans les années 70 et qui a été retraduit et qui est paru dans les années 2010 en France aux éditions Cambourakis dans la collection Sorcière. Un magnifique recueil de textes politiques et érotiques, lesbiens, féministes. Dorothy Allison, c'est une écrivaine féministe lesbienne prolétaire du sud des États-Unis qui a beaucoup écrit dans les années 60-70. Contexte. Un été, il y a presque 10 ans, j'ai emmené ma copine rendre visite à ma tante Dot, ainsi qu'au reste de ma famille, à Greenville. Nous avons pris notre temps pour y aller, passant une journée à Washington et une autre à Durham. J'ai même pensé lui suggérer un détour vers les Smoky Mountains, jusqu'à ce que je réalise que la raison pour laquelle j'y pensais était la peur. Ce n'était pas ma famille que je craignais, c'était ma copine. J'avais peur d'emmener ma copine à la maison à cause de l'expression que je pourrais lire sur son visage une fois qu'elle aurait passé un peu de temps avec ma tante, rencontré quelques-uns de mes oncles et essayé de parler à n'importe lequel de mes cousins. Je craignais la distance, la peur ou le mépris qui, je l'imaginais, pourrait apparaître entre nous. J'avais peur qu'elle me voie avec des yeux nouveaux, des yeux odieux, les yeux de quelqu'une qui aurait soudain complètement compris combien nous étions différentes. La froideur de ma tante, sa méfiance envers mes cousins ou le dédain de mon oncle me semblaient moins menaçants. J'ai eu raison de m'inquiéter. Ma copine m'a en effet vue avec des yeux nouveaux. Pourtant, il s'avéra qu'elle craignait moins sa propre peur ou le malaise qui pouvait s'installer entre nous que le fait que je puisse m'éloigner d'elle. Ce que j'ai lu sur son visage, après le premier jour en Caroline du Sud, ne correspondait en rien à ce que je prévoyais. Ses traits étaient marqués par une sorte de crainte ténue, de confusion, de doute et de honte. Tout ce qu'elle a pu me dire, c'est qu'elle n'avait pas été préparée. Ma tante Dot lui a souhaité la bienvenue, lui a servi du thé glacé dans un grand verre et l'a installé à la meilleure place autour de la table de la cuisine, celle près de la fenêtre, là où la fumée de cigarette de mon oncle ne la gênait pas. Mais ma copine a à peine parlé. « C'est une sorte de dialecte, n'est-ce pas ? » m'a-t-elle dit cette nuit-là dans notre chambre de motel. « Je n'ai pas compris un mot sur quatre de tout ce que ta tante m'a dit. » Je l'ai regardée. L'accent de ma tante était prononcé, mais je ne l'avais jamais pris pour un dialecte. C'était juste qu'elle n'avait jamais quitté le comté de Greenville. Elle avait une télévision, mais c'était pour les enfants, dans le living room. Ma tante passait sa vie à cette table de cuisine. Ma copine s'appuya sur mon épaule, la joue posée contre ma clavicule. Je pensais que je savais à quoi ça ressemblait, ta famille, Greenville. Tu m'avais raconté tellement d'anecdotes, mais les mots. Elle leva la paume de sa main en l'air et tendit les doigts comme si elle cherchait à exprimer une idée. « Je ne sais pas, » dit-elle. Je pensais comprendre ce que tu voulais dire quand tu disais classe ouvrière, mais il me manquait un contexte. J'ai été tendue, immobile. Bien que l'air conditionné du motel marchât à fond, je pouvais sentir la chaleur moite du dehors. Elle passait quand même à travers les portes et les fenêtres, une odeur de terre marécageuse qui me ramenait à l'âge de 10 ans, quand je descendais pour dormir au même le sol avec mes sœurs, espérant qu'il y ferait un peu plus frais.
Chant the pirate's gospel, you'll find us clapping.
Nous n'avions jamais eu l'air conditionné, nous n'avions jamais séjourné dans un motel, nous n'avions jamais mangé dans un restaurant où ma mère ne travaillait pas. Le contexte. J'ai respiré l'odeur de métal humide du climatiseur et je me suis souvenu de Folly Beach. Lorsque j'avais environ 8 ans, mon beau-père nous y a conduites par la route qui venait de Charleston. Et nous nous y étions installés toutes les 5 dans une seule pièce qu'un de ses amis de travail avait mis à notre disposition. Ce n'était pas un motel, c'était une pension. Et la femme qui la dirigeait ne semblait pas très ravie que nous nous présentions pour une chambre que quelqu'un avait déjà payée pour nous. Je dormais sur un lit d'enfant pliant qui menaçait de s'effondrer. Mes sœurs dormaient ensemble dans le lit en face de celui de mes parents. Ma mère cuisinait sur un réchaud à deux feux pour nous économiser le coût de repas pris dehors. Et notre petite fête, c'était de la nourriture à emporter. Du poisson frit, dont mon beau-père jurait qu'il était mauvais, et des hamburgers qui venaient du même endroit. Nous étions impressionnés par la douche extérieure sur les escaliers, où nous devions rincer le sable que nous ramenions de la plage. Nous avions très envie de louer un de ces canoës, parasols et bicyclettes que l'on pouvait se procurer sur la plage. Mais mon beau-père soutenait que toutes ces choses étaient proposées à des tarifs de voleurs et il maudissait l'homme qui essayait de nous tenter avec. Cela nous importait peu. Nous étions comblés par la simple liberté de passer de vraies vacances dans des lieux publics qui obligeaient mon beau-père à surveiller son caractère et par celle de courir partout en maillot de bain et en tongs. Nous sommes restés une semaine. Par deux fois, mon beau-père nous a envoyés à la plage pendant que lui et ma mère sont restés dans la chambre. Nous en avons profité pour suivre les faits et gestes d'autres familles, pour écouter les pères faire des éloges de leurs fils et regarder les mères rougir de fierté en voyant comment les gens regardaient leurs filles. Nous avons écouté les accents et étudié les menus de pique-nique. Chacun était étrange et merveilleux. En vacances. Mon beau-père ne s'emporta qu'une seule fois durant ce voyage. Il était horrifié par les prix pratiqués dans les magasins de souvenirs et nous faisait garder nos mains dans nos poches. « Ces salauds de juifs me feront payer si vous cassez quelque chose », jura-t-il. Ces paroles m'ont fait tressaillir, et aussi réaliser que l'homme derrière le comptoir l'avait entendu. Je l'ai vu rougir violemment alors qu'il suivait du regard mon beau-père qui se dirigeait vers la porte. Puis j'ai vu son coup d'œil sur moi et mes sœurs, reflétant le même mépris que celui destiné à mon beau-père. Une chaleur est montée dans ma nuque et j'ai voulu m'excuser, lui dire que nous n'étions pas comme mon beau-père. Mais je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais rien lui dire devant mon beau-père. Et si je l'avais fait, pourquoi m'aurait-il cru ? Souviens-t'en, ai-je pensé. N'oublie jamais ce que tu as vu, entendu et ressenti. J'ai serré les dents et gardé la tête bien droite. J'ai regardé cet homme dans les yeux et prononcé sans un bruit. Je suis désolée. Je ne sais pas s'il a saisi. Quel contexte avait-il pour des gens comme nous ? Après que ma copine se fut endormie, cette première nuit à Greenville, je suis restée allongée longtemps éveillée. Ma copine était une Yankee de bonne famille qui avait passé les étés de son enfance sur les rivages du New Jersey. J'étais allée là-bas avec elle. J'avais marché avec elle sur les plages de son enfance, larges et plates, d'un gris très clair, si propre qu'elle m'intimidait. Après avoir vu où elle avait grandi et rencontré quelques membres de sa famille, je la comprenais mieux. Je voyais d'où venaient certaines de ses peurs et d'où venait sa fierté. Qu'avait-elle compris à mon sujet aujourd'hui ? Je m'interrogeais. J'ai tourné la tête sur le côté pour la regarder dormir, ses lèvres légèrement appuyées contre ma peau. Ses cheveux étaient foncés et brillants, ses dents droites et blanches. Je me demandais ce qu'elle aurait pensé de Folly Beach, côte du New Jersey des pauvres gens, ou de nous si elle avait pu nous y voir. La vieille honte me submergea. Puis, je me résolus à la chasser. Le contexte, c'est si peu à partager, et c'est si vital. I knew you were safe, but you just never know. In the hands of the state. So let's burn, burn the prisons down. Burn, burn the prisons down. Let's tear apart the walls that keep us from each other. Let us tear apart the walls that keep us from each other. Let's tear apart the walls that keep us.